15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à une vilaine habitude que nous avons presque tous, nous adorons dire et penser surtout du mal des autres, critiquer, dire des méchancetés. Eh bien, vous savez quoi ? On peut utiliser ce défaut pour en faire une ressource positive. Ça va bitcher dans son rendez-vous aujourd'hui et en plus ça va nous faire du bien. Alors, pour nous expliquer comment utiliser positivement nos jugements négatifs, notre invitée, ce sera la psychologue Marie-Agnès Chauvin. Elle est également l'auteur du livre « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Ensuite, dans notre chronique « Les bobos du quotidien », nous nous intéresserons à des appareils qui peuvent nous causer de gros bobos, justement, les cabines UV. Certains y voient le moyen de préparer leur bronzage pour l'été, mais attention, ces UV artificiels sont très dangereux pour notre peau. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle décryptera un phénomène très inquiétant, le chemsex, quand les drogues deviennent un passage obligé pour avoir des rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous reprenons nos habitudes avec le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Sophie.
Bonjour, ma fille s'est fait piquer sur le bras dans la nuit, hier. Et je ne sais pas, en fait, par quel type de bestiole elle s'est fait piquer. Peut-être une araignée. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'il faut faire ? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est vrai, on se réveille un matin avec une trace de piqûre suspecte, je sais pas, sur le bras, sur la fesse, enfin peu importe. Si on n'a pas attrapé la bestiole, on sait pas qui nous a piqué. L'araignée, c'est vrai que ça, on pense souvent dire, ah, bah, ça doit être une araignée, on voit deux petits points. Enfin, qu'est-ce qu'elle doit penser cette,
alors c'est souvent
cette
une inquiétude femme. Des parents qui veulent absolument savoir est-ce que mon enfant a été piqué par un moustique ou une araignée. En pratique, ça change pas grand-chose, sauf si vous décidez de partir à la chasse à l'araignée. En pratique, si, il faut quand même essayer de distinguer les deux. La piqûre d'insecte, vous avez une petite papule, donc un petit relief, et vous allez vers un point de ponction unique, preuve de la piqûre, alors que l'araignée, c'est plus une morsure. Et donc, vous allez avoir deux petits points.
Comme un crochet.
Comme un crochet, exactement. D'accord. Et en règle générale, les araignées piquent un peu moins que les moustiques. En revanche, attention, si c'est des punaises de lit, c'est là où il faut être plus vigilant. Ah. Vous êtes piqué en rafale et vous avez des
c'est
dizaines.
Pas un bouton.
Exactement.
Ah oui,
c'est le seul intérêt. Est-ce que c'est des punaises de lit ou pas ? Après, moustique ou araignée, ça ne change pas grand-chose.
Alors, comment il faut réagir pour cette jeune maman, justement ? Mais quoi dessus pour soulager son enfant ?
Alors, c'est une plaie, donc il faut la désinfecter, surtout que les enfants auront tendance à la gratter. Vous pouvez mettre une
avec
compresse.
Les doigts sales et tout ça.
Exactement.
Donc,
vous pouvez mettre une petite compresse d'eau froide, ça permet d'anesthésier. Et puis, en pharmacie, il existe des crèmes avec ou sans cortisone faiblement dosée qui permettent de soulager. En revanche, ne mettez pas de talc ou de lotion pour assécher, éventuellement de l'eau de Cologne, mais ça aura simplement un intérêt antiseptique. Ça ne soulage pas spécialement la piqûre.
Est-ce qu'il y a des signes qui doivent particulièrement peut-être inquiéter ? Est-ce que ça peut s'aggraver une piqûre ? Justement, vous disiez, les enfants, ils grattent parfois avec les mains sales. Il peut y avoir une infection.
Exactement, il peut y avoir une infection secondaire. Donc, il faut apprendre à l'enfant à se gratter, surtout lui couper les ongles courts, bien se laver les mains. Et si jamais vous observez une croûte un peu suintante, il faut la désinfecter. Ne pas hésiter à consulter. La seule urgence, c'est simplement si vous êtes piqué par des hyménoptères, donc les sous-catégories d'insectes que sont...
Vous êtes fort en insectes, hein, dis donc.
Oui, j'ai un diplôme complémentaire, que sont les abeilles, les frelons, les guêpes, car là, il peut avoir une allergie. 5% de la population est allergique et un peu plus les enfants.
Merci Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question encore pour vous, hein, Jimmy. C'est la question de Caroline qui a 41 ans.
Salut Jimmy, salut Mélanie. Voilà, je m'appelle Caroline et je vous appelle parce que je pars en week-end, ce week-end pour un long week-end justement, en voiture avec mon mari. Et dans ces cas-là, j'ai assez souvent des cystites. Et d'ailleurs, ça se produit plutôt l'été. Alors je sais qu'il y a une solution, c'est de boire de l'eau. C'est ce que je fais le plus souvent. On m'a parlé aussi du jus de cranberry, mais... je ne sais pas si ça fonctionne vraiment et voilà, j'aurais bien aimé avoir des conseils. Je ne sais pas trop si vous en avez d'autres à me donner pour les cystites. Ben, merci beaucoup et à bientôt.
Jimmy, alors c'est vrai que celles qui sont sujettes à la cystite redoutent ça, surtout en été. Alors je dis celles parce qu'on est d'accord, c'est quand même un problème qui est plus féminin.
Oui, pour des raisons anatomiques, l'urètre à la fin est beaucoup plus courte que celle de l'homme. Et l'homme, il faut que ça touche aussi la prostate, un organe qui est bien plus enfoui et plus profond. Et donc c'est 2 millions de femmes chaque année. Et une femme sur deux, au cours de sa vie, aura une ou plusieurs cystites. Donc c'est plutôt un problème féminin.
Elle dit qu'elle boit beaucoup pour prévenir un peu la cystite. Ça marche ou pas de
boire ?
Ça marche
en prévention, ouais. Et parfois même en traitement. L'hydratation est importante. Surtout avec cette période où on va avoir de fortes chaleurs, vous allez vous déshydraté avec la transpiration. Donc, il faut augmenter vos apports en eau.
Un litre et demi, deux litres.
C'est le minimum syndical. Si vous buvez au moins un litre et demi par jour, vous diminuez de 50% le risque de cystite. Donc, c'est un bon début.
D'accord. Alors, est-ce que pour l'éviter, puisque ça, c'est, apparemment, elle connaissait de boire, est-ce qu'il y a d'autres astuces? Je ne sais pas, porter des vêtements en particulier. Je sais
Alors,
pas.
Les vêtements, oui, pourquoi pas. Des vêtements plutôt en coton, mais surtout régulariser le transit. L'infection urinaire est liée à une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qu'on trouve dans le tube digestif. Donc, si vous êtes constipé, c'est un facteur de risque d'infection urinaire et aussi chez la petite fille. L'éducation est importante chez les enfants. On s'essuie d'avant en arrière pour éviter de ramener les germes. On boit régulièrement et surtout, si on a envie de faire pipi, on ne se retient pas puisque si
ça
vous retenez de faire pipi,
ouais.
Eh ben, l'urine va stagner. Or, tout liquide qui stagne dans le corps humain s'infecte. Enfin, si jamais vous avez des cystites, ne faites pas ce geste qui consiste à faire des toilettes intimes abondantes, faire des irrigations,
ouais.
Des douches vaginales, parce que vous risquez au contraire d'abîmer votre flore et donc d'aggraver et d'entraîner des cystites.
Un mot très rapide, le jus de cranberries, oui, non?
En prévention, une fois que la cystite est installée, ça ne sert strictement à rien. Préférez le jus 100% bio, pur jus. Parfois en gélule, c'est parfois un peu plus efficace, mais demandez conseil à un pharmacien. Et si ça ne passe pas, il faut un traitement antibiotique, car une fois que l'infection est installée, le jus ne marche plus.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Caroline qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée, la psychologue Marie-Agnès Chauvin, qui va nous lancer une invitation à continuer à penser du mal des autres. Ça vous intrigue, j'en suis sûre, car on a presque tous tendance à critiquer les uns et les autres. Et vous savez quoi? Elle va nous expliquer que ça peut nous aider à révéler le positif en nous. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Marie-Agnès Chauvin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Vous êtes également l'auteur du livre « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Alors moi, c'est un titre, hein, je trouve, qui intrigue, qui interpelle parce que c'est vrai, on se dit tous « Tiens, ça c'est un peu moi » quand on entend le titre de votre livre. Pourquoi dire du mal des autres, c'est aussi répandu dans la population, c'est presque aussi naturel, je dirais?
Bah, vous avez raison de dire que c'est naturel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique fait partie de la spécificité humaine. Les humains ont ceci de plus vraisemblablement que les animaux, quoiqu'on n'a pas encore tout découvert sur les animaux. Mais bref, nous avons une capacité de penser qu'on pense, de porter un jugement sur notre propre pensée, donc de critiquer nos propres pensées et les pensées des autres. Et la critique, elle peut être évidemment positive ou négative. Donc, c'est d'abord un fait de la psyché ou de l'esprit humain.
C'est notre espèce.
C'est notre espèce qui veut ça. C'est une spécificité. Alors, c'est à la fois mauvais et bien.
Mmh. Jimmy.
Mais plus souvent, on pense du mal des autres sans le dire. C'est un peu plus fréquent.
Ça c'est vous. Critique. Il y en a qui disent.
On garde pour soi et on n'extériorise pas spécialement. Ça, c'est plus fréquent.
Alors ça, c'est bien, Jimmy. C'est bien parce que si on peut difficilement s'empêcher de penser du mal des autres, c'est pas génial d'en dire. Parce que c'est clair que quand ça sort, ça risque de faire un peu de mal. Donc, très important de dire, analysons notre pensée et freinons notre dire.
Vous faites ça à peu près, parce que dans votre tête, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je suis
sûr
que...
Je suis très silencieux ici, hein, souvent je ne parle pas. Et je juge beaucoup.
Voilà. Oui, mais vous êtes donc parfaitement normal.
Alors, puisqu'on parle de pensée, moi j'ai tendance à dire un peu tout ce que je pense. Peut-être que je devrais plus penser, alors on va en parler. Pourquoi on n'arrive pas à s'empêcher de penser, pourquoi on n'arrive pas à s'empêcher de critiquer surtout? Moi j'essaie de trouver une journée, en préparant l'émission, j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, je vais me poser deux minutes et je me dis, est-ce qu'il y a eu un jour cette semaine où je n'ai pas pensé du mal de quelqu'un? Je ne veux pas dire que ce n'est pas forcément du gros mal, hein, mais pourquoi on ne peut pas s'en empêcher?
Parce que ça sert à s'adapter au monde. Pourquoi est-ce qu'on critique? On critique pour conforter la posture qu'on a prise. On s'adapte. La vie, elle n'est pas marrante. Hein. Elle est marrante pour pas grand monde. Et c'est difficile d'arriver au monde, de s'adapter. Le monde est compliqué. Bon. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel j'arrive, je vais m'adapter en optant pour un comportement. Et mon conscient et mon inconscient, parce qu'on a évidemment les deux, comme il a vu que je m'adaptais parfaitement en faisant du rouge, il me dit surtout « tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas ». Donc, critiquer, d'abord, ça nous permet, je vous explique, de confronter une position sécuritaire. Ça nous empêche de changer. Et très curieusement, ne pas changer nous aide bien évidemment à continuer. Et pourquoi faut pas continuer? Parce que notre inconscient nous dit, attends, t'as réussi en faisant du rouge. Pour que je continue à faire du rouge, la meilleure façon, c'est de penser que celui qui fait du bleu, eh ben, c'est pas bien. Mmh. Donc tu vas quand même pas faire du bleu, tu te rends compte? Et plus je diabolise celui qui fait du bleu, plus ça me force à continuer à faire du rouge. Position sécuritaire, je ne change pas, tout va bien.
Jimmy, il fait du vert, je crois. À vous, Jimmy.
Je suis courant, on est tous confortés dans notre position. Et à partir de quel âge ça arrive on commence quand à critiquer des gens? Parce que j'ai l'impression que les enfants se plaignent beaucoup, mais ne critiquent pas. Est-ce que c'est propre à l'adulte ou à l'adolescence, peut-être?
Alors, c'est tout à fait juste. L'enfant qui naît est d'abord dans la sensorialité, comme les petits animaux, en quelque sorte. Et donc, l'enfant, il ressent, point, c'est tout. Et pourquoi il se met petit à petit à créer une vision de sa propre pensée? C'est quand ton cortex, monsieur le médecin, vous allez me corriger si je dis des sottises, son cortex cérébral va lui donner des capacités différentes qui vont lui permettre, et ça se situe grosso modo entre 5-6 ans, il va pouvoir avoir une capacité supplémentaire au-delà de sa sensorialité, c'est-à-dire la pensée va s'établir. Et quand la pensée va s'établir la possibilité de penser que je pense, comme disait Descartes.
On dit l'âge de raison vers 7 ans,
c'est l'âge de ça, raison,
hein,
absolument. Et vous rajoutez effectivement à ça la merveilleuse couche morale qu'il est nécessaire, indispensable à donner à l'éducation de nos enfants. Et donc, non seulement il pense, mais il va penser en bien et mal.
On les éduque à critiquer, quoi, en fait.
En quelque sorte. En quelque sorte.
Jimmy ?
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne disent jamais du mal des autres. Est-ce qu'ils sont sincères ou est-ce que finalement, tous, au bout d'un moment, on critique? Il n'y a personne qui est...
On a l'impression qu'il y a des gentils comme ça. Moi, j'en connais quelques-uns dans l'entourage.
Mais est-ce qu'il y en a des vrais gentils?
Des gens qui disent « Oh non, on dit du mal de quelqu'un » puis ils vont dire « Oh non, voilà, il est quand même gentil celui-là
». C'est exactement ce que
je
dis.
Il y a des gens qui refusent de dire du mal.
Oui.
Alors, il y a deux façons de voir les choses. Comme vous dites, il y a ceux qui sont trop gentils. Hein, et alors, on peut imaginer pour les seconds, je reviendrai à celui qui est trop gentil ou celle qui est trop gentille, on peut imaginer que c'est des gens qui ont abouti leur propre maturité psychologique et affective. Parce que si nous étions tous, et nous sommes relativement peu à y être arrivés, si nous étions tous parfaitement matures, nous n'aurions pas besoin de juger les gens. Si nous étions complètement aboutis dans notre totalité psychologique, le jugement tomberait de facto. Alors, je vous garantis, moi, j'y suis pas encore, je sais pas vous, on peut penser que la personne en question y est.
On n'est aucun des trois, je pense, autour de la table.
je m'en rapproche.
Merci beaucoup, Marie-Agnès, on fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous en dire plus sur ce thème passionnant. Pourquoi nous adorons, consciemment ou pas, penser du mal des autres, de sa belle-mère, de son voisin, de ses collègues ou même parfois de son mari. Et oui, cela arrive. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que ça nous aide en fait. Ça peut nous aider à révéler le positif en nous. On vous explique tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr. Et notre invité, c'est vous, Marie-Agnès Chauvin. Vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Vous êtes également l'auteur du livre « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Alors avec vous, aujourd'hui, on décrypte cette vilaine habitude qu'on a tous de critiquer, de juger constamment les autres. Et vous d'ailleurs, vous allez nous expliquer pourquoi c'est pas une si mauvaise habitude que ça. On va y venir, mais d'abord, je voulais vous demander si finalement la quantité de méchanceté qu'on a dans la tête, est-ce que ça s'est pas aggravé finalement depuis l'arrivée des réseaux sociaux? J'ai l'impression qu'on bitch plus, comme disent souvent les jeunes, depuis qu'il y a tous ces réseaux, on critique le tweet du tel, d'un tel, chacun pose sa position et chacun critique finalement.
Alors on exprime plus, je suis pas sûre qu'on pense plus. C'est-à-dire qu'effectivement les réseaux sociaux c'est un merveilleux espace pour lâcher sa critique. Alors ça a un côté positif pour la personne parce que ça lui dégonfle un petit peu cette espèce de masse de trucs qu'il a à l'intérieur. C'est largement moins positif pour celui qui se le prend dans la figure.
Et oui.
Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, Jimmy. Je pense, et j'essaye de ne pas dire, donc l'infection qui gagne dans les réseaux sociaux, c'est effectivement cette espèce de lâchage qui est finalement un espèce de lynchage.
Et oui, là c'est plus dangereux. Vous vouliez revenir sur la copine, la collègue qui dit jamais de mal, parce que c'est vrai que moi j'arrive toujours pas à les comprendre ces gens. Il y a des gens qui...
C'est horrible ce que vous dites, j'arriverai pas à comprendre les gens gentils en
mais
fait.
Mais non, mais on peut pas ne jamais dire... On a toujours un voisin qui nous casse les pieds, il y a toujours quelqu'un qu'on a envie de... Je veux dire, c'est naturel, c'est humain, on en a parlé, mais il y a des gens qui se refusent à dire la moindre méchanceté sur personne. Comment c'est possible ?
Alors, on revient.
Vous avez dit qu'ils sont plus matures, d'accord, mais bon.
Alors, ils peuvent être plus matures, c'est okay. Une hypothèse. Il y a une autre hypothèse, et c'est exactement ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne, imaginons que cette personne-là, elle s'est construite en étant très, très, très gentille. C'est-à-dire qu'en étant très gentille, elle s'est adaptée à sa famille, elle a été aimée, elle a été reconnue. Donc, son inconscient lui dit « t'es gentille, t'es gentille, t'es gentille, t'es gentille, t'es gentille ». Cette personne, elle marche sur une patte. Qu'est-ce que ça serait d'aller chercher le complémentaire ? En fait, elle est déséquilibrée dans sa suradaptation de gentillesse, comme il y en a qui sont déséquilibrés dans leur suradaptation de rébellion ou de méchanceté. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait dire à cette dame, en quelque sorte ? Ok, si elle est très, 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 très gentille, c'est qu'est-ce qu'elle repousse ? Elle repousse ce que son inconscient lui dit. L'inverse de gentil, c'est quoi ?
Méchant.
Méchant. Je veux surtout pas être méchante. Donc, tant que son inconscient lui dit « si tu n'es pas gentille, tu es méchante », elle est dans une espèce de posture où je suis gentille, où je suis méchante.
Mais la vie n'est pas tout noir, tout blanc. Moi, je pense du mal des autres parfois, ça m'arrive, mais je ne crois pas être quelqu'un de méchant.
Alors, voilà. Alors,
Jimmy, vous vous dites « oui, je suis méchante », c'est ça ?
Non, mais justement, vous avez raison. On ne peut pas se reconnaître comme méchant. Donc, à cette dame, on ne peut pas lui dire « tu vas te rééquilibrer si tu deviens méchante ». Ce n'est pas possible, ça sort de son système de valeurs, c'est inadmissible. Par contre, et là, on arrive un peu à notre astuce de positiver le négatif, si on lui dit « qu'est-ce que ça sait très bien faire, quelqu'un de méchant ?» Quel est le positif derrière la méchanceté ? Je peux vous poser la question. C'est
Jimmy.
Quoi le positif derrière la méchanceté ?
L'honnêteté, peut-être ?
Une forme d'honnêteté, c'est de dire ce que je pense. Alors, à cette dame, on va lui dire « tu vas continuer à être gentille, mais de temps en temps, tu peux peut-être dire ce que tu penses, naturellement. »
Qui n'est pas forcément méchant, mais une petite critique.
Ça ne sera pas méchant. Et donc, du coup, elle va pouvoir, on en reparlera après, elle va pouvoir associer son système de valeurs de gentillesse avec une ouverture sur une autre couleur qu'elle n'avait pas encore, c'est de dire ce qu'elle pense. Parce qu'elle se limite, elle se restreint.
Alors moi, c'est ça, je ne suis pas méchante, je dis juste ce que je pense. Allez, à vous, Jimmy.
Alors, revenons à la passion des Français, la critique. On adore critiquer. Non, mais c'est vrai, c'est français, ça. Souvent, on dit que les Français sont râleurs. Ouais. Mais souvent, quand on critique, on le fait dans le dos des gens. On n'ose pas leur dire en face. Est-ce que c'est une forme, finalement, de sincérité, puisqu'on se rend compte que la critique est parfois inutile, ou c'est parce qu'on est lâche, tout simplement ?
Alors, on peut dire les deux. Si je dis du mal de mon voisin derrière, c'est que je ne suis pas très, très courageuse, et que peut-être je ne sais pas lui dire en face, de manière subtile, ce que je pense de lui. Donc c'est un petit peu le coup de la dame. Si je suis capable de dire gentiment à mon voisin les méchancetés que je pense de lui, je vais peut-être y aller. Mais comme je ne sais pas faire que je vais avoir envie de lui sauter à la figure, bah comme je ne suis pas très courageuse, je me débine et je le dis derrière.
Est-ce que ça ne révèle pas aussi un peu nous, les critiques ou les méchancetés qu'on peut donc avoir dans la tête, un peu de jalousie finalement ? Parce qu'on va dire « oh, celle-là, elle n'est pas très bien habillée, mais finalement, je ne suis pas mieux attifée, entre guillemets. » Est-ce que ce n'est pas un peu ça finalement aussi ?
Alors, derrière le jalousie, j'aime bien votre mot jalousie parce qu'il est effectivement empreint de critique. Derrière la jalousie, moi, je préférerais qu'on voit l'envie. Revenons à cette dame, j'espère qu'elle ne nous en voudra pas de la demande. Peut-être que cette dame, elle a envie de pouvoir dire des choses plus simplement et plus directement. Donc, vous voyez, ce que l'autre sait faire et qu'on ne sait pas faire, il y a quelque part une notion « j'aurais bien envie de faire comme lui ». D'où votre notion
l'envie,
de jalousie.
Là, plutôt, oui, d'accord.
Je dirais l'envie. Je dirais l'envie.
Elle ne peut pas nous en vouloir parce qu'elle est trop gentille, justement.
Voilà.
Vous dites, mais...
Est-ce qu'on ne peut pas être aussi influencé par le groupe si on est entouré de personnes qui critiquent, on va critiquer, et au contraire, si on a des personnes un peu plus bienveillantes, et bien à ce moment-là, on va être un peu plus sur la réserve, une forme de mimétisme.
Évidemment. Là aussi, question de sécurité et question de survie. Quand je suis dans un groupe, ça fait un peu peur quand même. Bon. Donc, pour me sentir en sécurité dans ce groupe, je vais adopter ces codes. Donc, si le groupe est gentil, je vais être capable d'être gentil. Si le groupe est moins gentil, je serai moins gentil. Vous savez, ces expériences terribles où on va jusqu'à conduire artificiellement les gens à la mort en s'adaptant. Donc, nous sommes quand même des animaux sociaux. Et par sécurité, on s'adapte au groupe. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Jimmy.
C'est vrai que c'est parfois quelque chose de collectif, mais donc c'est un phénomène d'adaptation. Merci Agnès Chauvin. On va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons passer maintenant au bienfait de la critique. Car oui, ça peut paraître étonnant, un peu même contre-intuitif, mais penser du mal des autres, ça peut nous faire du bien. Et on va vous aider à être méchant à bon escient, si je puis dire, à vous servir de vos coups de gueule, de ces méchancetés que vous pensez pour vous révéler finalement le positif en vous. Vous allez voir, ça va être passionnant. On vous détaille tout ça dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Marie-Agnès Chauvin. Vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Vous êtes également l'auteur du livre « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Une question dans un autre domaine, par exemple en amour. Pourquoi au début d'une histoire amoureuse, c'est vrai qu'on critique quand même rarement l'être aimé, le nouvel être aimé. Et alors pourquoi vous rigolez? Je ne parle pas de mon expérience personnelle, mais pourquoi après quelques années de vie commune, là par contre, surtout quand on est avec ses copines, on a tendance à dire « Oh là là, il me casse les pieds. » Il met jamais ses chaussettes au bon endroit. Je parle pas de moi, Jimmy, arrêtez de rigoler. Pourquoi là, la critique est plus facile après quelques années comme ça?
Parce que l'amour, c'est exactement le phénomène inverse. C'est-à-dire, je vois dans l'autre ce que je n'ose pas voir de moi. Et j'ose pas me trouver jolie. Et l'amoureux me dit que je suis belle. J'ose pas me trouver intelligente. L'amoureux me dit que je suis intelligente. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'autre est le miroir positif. J'allais dire...
Au début, en tout cas.
Oh ben heureusement que ça commence comme ça.
On est moins belle après.
Alors, je suis pas là pour faire un cours d'harmonie conjugale, mais ça se gâte parce qu'effectivement, si on met tout son espoir dans le regard que l'autre porte sur soi, quelques temps après, bien évidemment, on se casse la figure. Et l'inverse étant aussi vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure, le coup des chaussettes, aïe. Bon, donc l'idée, enfin, encore une fois, l'autre n'est que l'autre. L'autre n'est porteur de rien. Et les couples qui fonctionnent, alors je suis très bonne en théorie, là, je peux vous dire. Hein. Les couples qui fonctionnent, c'est les couples qui acceptent leurs différences et qui se nourrissent de la différence de l'autre. Ouais. On est quand même dans le sujet. Si j'attends que l'autre soit l'être idéal qui va combler mes désirs, je me ramasse.
Je crois qu'il me critique autant, vous inquiétez pas. Jimmy, à vous.
Non, mais donc, il faut laisser les chaussettes traîner et accepter que la cuvette des toilettes n'est pas toujours relevée. Mais parfois, on a des gens qui se plaignent de leur conjoint ou de leur conjointe. Et on leur dit, bah, si t'es pas content, quitte-le ou quitte-la. Et puis tout d'un coup, ils nous disent, ah bah non, mais je l'aime quand même. Est-ce qu'on a la peur du changement et que la critique, finalement, elle est un peu superficielle?
Alors, elle est certaine. Alors, la peur du changement, oui. Hein. On sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on, hein, on sait pas ce qu'on va trouver. Hein. Bon, donc, ça, c'est effectivement juste. La critique aussi. Quand je me mets à critiquer mon conjoint, reprenons le coup des chaussettes, c'est très important. J'en ai marre que mon conjoint ou ma conjointe laisse traîner ses chaussettes sales au pied du lit. Okay. Donc, je vais avoir tendance spontanément à penser qu'il est terriblement bazareux et là, je module mon propos.
Bon. Quand c'est au pied du panier à linge sale, c'est encore pire. Hein, moi, je
au
dis,
pied mais... du panier à linge sale. Donc, il est bazareux, à la limite, il se fout de ma figure, il ne me respecte pas, enfin, il y a le truc qui monte. Ok, alors attendez, là, on est vraiment dans le comment. Si je critique mon conjoint ou ma conjointe par rapport à son désordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon système inverse à moi, c'est l'ordre parfait et que je voudrais que le compagnon ou la compagne y soit très ordonné. Okay. Mmh. Qu'est-ce qui me dit en étant dans le désordre? Si je retourne le jugement « tu es désordonné », qu'est-ce que ça sait faire quelqu'un de désordonné, en positif?
Jimmy?
Bah,
vous savez, vous êtes désordonné.
En positif, non. Non, je ne sais pas. Moi, les chaussettes, je les laisse traîner et je m'arrête là, en fait.
Eh bien, c'est quelqu'un d'assez décontracté.
Ah, c'est vrai.
C'est quelqu'un qui n'est pas complètement enfermé dans des normes. C'est quelqu'un qui laisse un petit peu les choses venir. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus relax.
Et tout ça, on aime bien, là, tout ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai. Hein, ouais.
Donc, moi, je suis l'épouse qui range tout. Vous êtes l'époux qui laisse traîner ses chaussettes. Qu'est-ce que je peux apprendre de vous? Eh bien, je peux peut-être apprendre de vous d'être un petit peu plus décontracté.
C'est pas mal.
Ça, dans ce sens-là. Ouais. Je suis sûr que ça marche, mais vous avez raison. Mais en plus,
bon, je deviens décontracté, Jimmy, je vous assure que je mets mon billet et que vous ne laisserez plus traîner vos chaussettes.
Bon. On va venir quand même à l'objectif du bouquin, Marie-Agnès. Comment on utilise donc la critique positivement? Est-ce que vous pouvez nous proposer un petit exercice là, pour s'entraîner et du coup se faire du bien en disant des méchancetés?
Alors, on est déjà en train.
En pensant. Oui, c'est vrai que là, on se fait du bien depuis déjà un petit moment. Hein.
Bon, alors, bon, déjà, c'est agréable de se dire, nous sommes ce que nous sommes. Vous voyez, moi, je lutte contre le sentiment de culpabilité. Et la première chose du plaisir qu'on prend tous les trois, là, en s'amusant depuis quelques instants de jouer avec tout ça, c'est de se dire, finalement, on est normaux, ne culpabilisons pas, tout va bien, on est des êtres humains comme il faut. Ok.
Ah, c'est vrai qu'on se sent bien. Hein.
On se sent mieux. Du coup, à partir de là, on peut construire. Dans la culpabilité, on ne construit rien. Donc, vraiment, la première étape, c'est de déculpabiliser le fait qu'on pense du mal des autres.
Première étape. Jimmy, qu'est-ce que vous voulez
dire? Est-ce que ça peut nous rendre meilleurs? Par exemple, si je critique la tenue vestimentaire de quelqu'un, je vais me dire, tiens, je ne vais pas faire comme lui ou comme elle, et je vais prendre soin de moi et mieux m'habiller.
Par exemple? C'est tout à fait juste.
Vous avez compris le truc tout seul, en fait, hein, Jimmy. C'est
Jimmy,
bien.
Vous avez tout compris. Qu'est-ce que ça dit pour moi, ce que je critique chez l'autre?
Si je critique les rondeurs de Jimmy, par exemple.
C'est vrai que vous êtes souvent sur mes côtes à ce niveau-là. Et donc, à mon avis, ça la pousse à être une meilleure.
C'est ça, parce que moi-même, j'ai envie de maigrir un petit peu, peut-être.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Bah, prenons ce thème-là.
Ouais, je me moque de ces bourrelets de temps.
Alors, on est dans le comment, là. On est vraiment dans l'exercice. Comment est-ce que je peux profiter du jugement que je porte négativement sur l'autre pour m'harmoniser avec moi-même, ne plus être sur une patte, ne plus être sur une couleur, mais être sur mes deux pieds. Prenons cet exemple. Alors voilà, moi je suis quelqu'un d'assez mince. Imaginons que je déteste les gens qui sont rondouillards. Je déteste ça. Bon, alors je dis tiens, dans mon petit exercice, qu'est-ce que ça dit ça? Qu'est-ce que savent faire les gens qui sont enveloppés que je m'interdis? Moi, je m'interdis les croissants, le machin, le truc pour rester mince.
Ça prend du plaisir en mangeant des choses.
Voilà. Ouais. Qu'est-ce que sait faire la personne qui est un peu ronde? Eh bien, elle sait sensoriellement se
profiter
donner du
plus.
Plaisir.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je ne sais pas faire. Je me frustre. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Ce n'est pas pour autant qu'il faut que je prenne 15 kilos.
Non, on n'encourage personne à faire ça, évidemment.
Mais qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? C'est effectivement, de temps en temps, me laisser aller à une sensorialité. Ouais. Un peu plus naturel.
Plus relax, encore une fois.
Et d'arrêter de me coincer dans des régimes.
Jimmy, une dernière question.
Souvent, on n'hésite pas à se plaindre, mais on oublie de dire quand les choses vont bien. Est-ce qu'il faut aussi peut-être rééquilibrer la balance et dire quand tout va bien, j'ai passé une bonne soirée, tout simplement. Alors que souvent, on dit j'ai passé une mauvaise soirée, mais on oublie de dire les bons moments.
Alors ça, on pourrait rester 15 heures ensemble, Jimmy, là-dessus. Parce que c'est vraiment le truc génial, c'est apprenons la pensée positive. Vous savez que plus on pense en positif, mieux on va. Donc, alors là, critiquons positivement les choses, mais alors là, on peut se lâcher dans le penser et dans le dire. Alors là, on peut se répandre. Hein. Là, il faut se lâcher.
Très bien. Merci beaucoup, Marie-Agnès Chauvin, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir éclairé sur toutes ces méchancetés qui nous passent par la tête. Je rappelle le titre de votre livre une dernière fois, « Continuons à penser du mal des autres » aux éditions Erol. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Et aujourd'hui, on va s'intéresser à des appareils qui peuvent nous causer de gros bobos, justement les cabines UV. Certains y voient le moyen de préparer leur bronzage pour l'été. Mais attention, ces UV artificiels sont très dangereux pour notre peau. Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed et il est temps à présent de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur les cabines de bronzage. Savez-vous qu'elles ne préparent en rien votre peau avant l'été? Pensez-vous que les UV artificiels sont plus ou moins nocifs que ceux du soleil? Connaissez-vous les risques et surtout, s'il y a un nombre de séances par exemple à ne pas dépasser pour éviter les problèmes? Justement, Benjamin Lévesque a été vous poser toutes ces questions. On écoute son micro-trottoir.
C'est pas forcément dangereux, je pense que ça, si c'est bien fait, ça peut ne pas être dangereux.
Ça peut faire du bien en termes de vitamine D, ça peut faire du bien au-delà d'une séance par mois, ça commence à devenir très dangereux.
Ça peut être dangereux si on y va trop souvent, c'est comme tout en fait.
Ayant cette problématique d'allergie au soleil, en ce qui me concerne, moi c'est inenvisageable que j'y aille.
Ça peut provoquer des allergies, de l'eczéma, provoquer des cancers de peau.
Je pense pas qu'il y ait une différence en fonction de la couleur de la peau. Parce que ça c'est le pigment et c'est pas lié forcément à la résistance aux UV.
Tout dépend de la mélanine en fait, c'est ce qui nous permet de nous protéger des UV. Et plus on a de mélanine et plus on est protégé. Donc je pense que quelqu'un qui est très très blanc a plus de chances d'attraper un cancer.
Je pense qu'une exposition trop intense sur des périodes aussi courtes, qui en plus ne sont pas naturelles, peuvent en effet provoquer des maladies de peau, peut-être sur des mélanomes, peut-être sur des cancers de la peau, et développer chez des personnes qui sont peut-être saines des problématiques médicales importantes.
Bon, alors moi je reviens sur le premier quand même qui dit si c'est bien fait, c'est pas si grave. Alors on va voir avec vous, je crois que c'est pas du tout le cas.
Ouais,
on va faire un point, Jimmy, sur les cabines de bronzage. Moi je suis quand même toujours surprise de voir autant d'instituts avec ces cabines, alors que ça fait quand même, j'ai l'impression, je sais pas, moi, un bail qu'on sait que c'est pas bon pour la peau.
Oui, et les réponses des auditeurs sont assez inquiétantes d'ailleurs.
Vrai,
on se rend compte qu'il y a une très mauvaise connaissance, alors que depuis le milieu des années 2000, le lien est clairement établi entre exposition aux UV, les ultraviolets artificiels, et un risque accru de survenue de cancer de la peau. On s'en doutait depuis longtemps que le soleil pouvait provoquer des cancers de la peau. Et donc, dans les années 2000, les scientifiques ont montré qu'il existait un lien authentique et réel, et même très fort, entre l'irradiation aux UVA, les ultraviolets de type A des cabines, et le mélanome malin, pardon, qui est le plus grave des cancers de la peau. Et pourtant, on se rend compte que les connaissances sont plutôt très faibles et que certaines sont encore présentes.
Alors, le problème, Jimmy, c'est aussi que beaucoup de gens continuent de penser que les UV des cabines, finalement, vous avez dit, les UVA, donc, ils sont moins dangereux que ceux du soleil. Pourtant, c'est faux, on est d'accord.
Et oui, parce que finalement, on pense que les UVA, elles sont réputées comme les rayons qui font bronzer et que ces UVA, comme ils provoquent moins de coups de soleil que les UV de type B, eh bien, ils seraient moins dangereux. Et contrairement aux publicités qui ont pu être plutôt mensongères, au contraire, ils provoquent des dégâts, mais en profondeur de la peau. Et donc, ils sont impliqués, les UVA, c'est des cabines, dans le survenu des mélanomes malins, on le répète, mais de la même façon que les UVB aussi, dans le vieillissement de la peau et aussi dans le dommage du système immunitaire de la peau. Bref, vous êtes totalement perdant.
De toute façon, on le voit, hein, il suffit de regarder les gens qui sont accros aux cabines, les personnes un peu plus âgées, elles ont la peau quand même qui fait plus vieille.
Hein, exactement, abîmée, flétrie.
Flétrie, voilà, dire. C'est ça. Bon, Jimmy, est-ce qu'on a des chiffres finalement, des chiffres concrets qui reflètent ces risques concrètement?
Alors oui, on a deux chiffres très clairs qui vont vous calmer. C'est les autorités sanitaires qui estiment que les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmente de 60% le risque de développer un mélanome cutané en France. On estime que 40% des cas de mélanome chez les jeunes pourraient être attribués à une utilisation des cabines de bronzage avant l'âge de 30 ans. C'est avec ça.
On est calmé, je crois.
Voilà,
vous avez vu, comme je suis blanche, j'en ai jamais fait, donc je vais continuer comme ça. Ça veut dire que, Jimmy, même une séance, de temps en temps, il y en a qui le disaient dans le micro-trottoir, une de temps en temps, ça peut être déjà grave alors.
Et oui, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de dose, hein, pas comme l'alcool, on n'a pas d'effet seuil. On ne pourrait pas vous dire à partir de quel moment vous risquez quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, plus vous fréquentez ces cabines et plus vous augmentez votre risque, surtout avant 30 ans. Même chose si vous avez un phototype clair, une peau qui est plutôt claire ou des antécédents particuliers dans la famille après une première exposition. Et puis, selon l'INCa, l'Institut du cancer, eh bien, l'exemple est frappant, une séance de 15 minutes dans une cabine de bronzage correspond à une exposition de même durée sur une plage des Caraïbes sans protection solaire.
15 minutes seulement, mais écoutez, je pense qu'on est calmé, on a compris. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions et ce rappel nécessaire avec les envies de teint allé qui commencent à titiller certains. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc va nous décrypter un phénomène assez inquiétant, le chemsex, quand les drogues deviennent un passage obligé pour avoir des rapports sexuels. Tout ça, c'est dans quelques minutes. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed qui reste là, fixé au siège en attendant que Catherine arrive. Catherine Blanc qui est là, donc Catherine, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver tous les deux.
Et nous pareil. Alors aujourd'hui Catherine, on va répondre à la question de Philippe. Philippe, il a 35 ans et donc il nous écrit la chose suivante. Depuis de nombreuses années, j'ai des aventures homosexuelles uniquement en consommant de la cocaïne. Sans cela, il m'est impossible d'avoir du désir ni même d'être attirée par un autre homme. Catherine, comment ça, on peut expliquer qu'il... Alors, on sait que c'est une tendance, hein, ce qu'on appelle le chemsex, la drogue utilisée donc pour les rapports sexuels. Comment ça se fait qu'il ne puisse pas, certains ça pourrait être l'alcool aussi, mais éprouver du désir sans ça?
Certainement, parce que le désir est jugé coupable et que donc il y a le surmoi qui est une sorte d'instance psychique qui est un juge intérieur qui arbitre ce qui est faisable et pas faisable, qui nous permet de ne pas être des serial killers, qui nous permet d'être dans le respect plus ou moins fortement des lois, des règles, de l'éducation. Et bien peut-être que ce surmoi est très présent et qu'il faut quelque chose pour le faire lâcher et exprimer son désir sexuel et qui plus est son désir homosexuel.
Jimmy.
Mais du coup, est-ce que ça pose la question de son orientation sexuelle? Est-ce que ça veut dire qu'il doute de lui-même? Est-ce qu'il est vraiment homosexuel?
Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression.
Parce qu'il dit, sans cocaïne, je ne suis pas attiré par des hommes, mais il ne dit pas s'il est attiré par des femmes aussi.
Alors ça, on ne sait pas effectivement s'il est attiré par des femmes. En tout cas, le fait est qu'il se juge fortement quant à son homosexualité, donc il ne l'assume pas. Est-ce que pour autant, peut-être a-t-il une vie hétérosexuelle par ailleurs? Et se sent-il encore plus coupable parce que justement avec une vie hétérosexuelle par ailleurs. Mais le fait est que c'est manifestement une grosse culpabilité qui est à l'origine de ça et un besoin de ça et puis aussi peut-être de la sexualité en général qui est perçue comme étant un truc pas bien et il faut pour passer le guet, il faut un déclencheur qui permette, qui ouvre les vannes de façon très, très évidente.
Donc, est-ce que vous conseillez d'arrêter? Parce que de toute façon, déjà, médicalement, consommer de la cocaïne régulièrement, c'est très dangereux. Et puis, il faut qu'il arrive à faire autrement. Alors, il faut y aller progressivement. Qu'est-ce que vous lui conseillez?
De toute façon, le problème de ces drogues, c'est qu'elles offrent tellement un shoot important que le retour à la réalité pour retrouver tranquillement l'excitation à créer soi-même est tellement en décalage que c'est souvent difficile pour ces gens-là d'arrêter de consommer ces substances-là, parce que tout va tellement plus vite, tout est tellement plus accéléré
plus intense
et plus fort, etc., que effectivement ils n'arrivent pas à lâcher parce que tout paraît mièvre, petit, sans goût, sans odeur ni saveur. Donc je crois que d'abord c'est pas une histoire de sexualité, c'est une histoire d'addiction et que c'est d'abord cela qu'il faut régler et puis après comprendre pourquoi cette addiction est là. Est-ce qu'elle est là que pour le sujet de la sexualité, pour débrider la sexualité?
Du coup,
ça pose la question de pourquoi la sexualité et l'homosexualité est-elle à ce point bridée? Ou alors, est-ce que c'est un autre sujet qui est beaucoup plus général et qui se joue notamment sur ce thème-là?
Jimmy?
Donc, il y a la question finalement, pas du refoulement des sentiments, mais peut-être aussi la question de la prise de risque, le goût du risque, puisque finalement, avoir ce genre de rapport sexuel probablement non protégé sous l'effet de stupéfiants, eh bien, on sait qu'on s'expose à des maladies, ça peut être le VIH ou même peut-être un viol, peu importe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce travail de recherche de l'excitation supplémentaire, une forme de fantasme en plus?
De toute façon, en tout cas, je ne sais pas pour lui, mais de toute façon, quand on se met en risque comme ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de un mélange entre de l'autodestruction d'un côté et un sentiment de toute-puissance de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où on cherche à se faire du mal, on cherche à s'abîmer, et à la fois, on espère passer entre les gouttes et du coup, nourrir un sentiment d'être au-delà des lois, au-delà des lois de vie et de mort, des lois de contamination, des lois de morale, etc. Donc, de toute façon, c'est un jeu d'équilibriste entre deux aspects qui sont les deux délirants. Se détruire, c'est extrêmement dangereux, et se penser tout-puissant, c'est extrêmement dangereux, puisque c'est une inadaptation à la réalité des relations avec les autres et au regard à poser sur soi-même.
Donc d'abord régler le problème de l'addiction et après peut-être comprendre pourquoi elle est arrivée en fait.
Voilà, voir si elle est en lien réel avec initial avec la sexualité. Est-ce que c'est simplement sur le sujet de la sexualité ou si c'est un sujet bien plus vaste dont la sexualité profite?
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et tout de suite je cède la place au meilleur de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Le meilleur de Mathieu Noël vous dit bonjour. Mélanie Gomez. Effectivement, aujourd'hui, rediffusion d'une émission formidable avec Aurélie Valogne, une auteure qui vend à des millions d'exemplaires et qui est très très sympathique aussi. On avait passé un excellent moment, on a décidé de vous le rediffuser.
Ah, vous savez à quel point j'adore les rediffusions, donc évidemment.
Mais oui, parce que vous comprenez mieux.
Là.
Vous comprenez mieux la
c'est
deuxième
ça.
Fois.
J'ai
en
besoin
fait.
D'écouter deux
c'est
fois
ça, c'est
pour
très,
comprendre.
Très bien.
Donc je serai là évidemment et vous aussi surtout restez sur Europe 1.